jusqu'à 13h et en direct, les rendez-vous de midi aujourd'hui. On parle à nouveau d'un livre, vos invités Hubert Gaillard dans nos studios et puis également Philippe Gilbert-Emmanuel.
Avec cette vie.
Mon micro est allumé?
Oui.
Quelle vie! Des belles et moins belles rencontres, hein, humaines et équines, toujours belles les rencontres équines. De grands voyages, de grandes histoires d'amour, une vie de défis, d'aventures, des coups du sort, de refus absolu des carcans. Le récit est haletant, tendant son rythme imposé par les souvenirs très précis et détaillés que dans celui de l'écriture vivante, généreuse, gourmande. On découvre aujourd'hui un livre et surtout un parcours, celui d'Hubert Gaillard de Saint-Phal, qui se raconte dans ce livre paru aux éditions chez Maupassant par Mons et par Chevaux. Livre écrit en collaboration avec Philippe Gilbert qui en rédige une préface qui lui ressemble. Et on vous reçoit aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de plaisir, messieurs. Bonjour Philippe, Hubert.
Bonjour Emmanuel.
C'est donc un parcours et un livre haletant que vous nous proposez, qui est paru cet été, qui démarre déjà très fort avec cette préface signée Philippe Gilbert, pleine d'allant, hein, de digressions, mais qui n'en sont pas tant. Philippe, que vous avez rencontré il y a seulement 2 ans, Hubert Gaillard de Saint-Phal, 2019, on a l'impression que vous connaissez depuis des années, mais en fait pas tant que ça. Et la première rencontre a été assez mémorable.
Hein. Oui, très mémorable, oui, en effet, parce que j'aime pas les journalistes.
C'est la première phrase que vous dites à Philippe.
Voilà, et je lui ai répondu, vous me flattez, monsieur.
C'est ça. Ce que vous racontez dans la préface.
Oui, puis j'étais en haut d'un cheval en plus, il était tout petit pour moi, et j'ai jamais aimé les journalistes, et puis je lui ai dit, je lui ai pas serré la main. Et 3 jours après, j'avais la queue entre les jambes, je frappais à sa porte pour dire, j'ai envie d'écrire un livre, est-ce que vous pouvez m'aider?
3 jours
après.
Alors
vous voyez comme quoi le monde est petit, et j'ai failli ne pas frapper. Mais j'ai tellement été bien reçu par Philippe, et puis c'était tellement enjoy, joyeux. Et puis là maintenant, vous dites qu'on se connaît depuis 2 ans, mais j'ai l'impression que j'ai tout vécu avec lui, et c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est devenu une amitié très très forte. Il n'y a pas une semaine, on ne se voit pas.
Ah,
il n'y a pas moyen d'être tranquille.
Hein.
Alors que je suis un valeureux retraité.
Mais oui, journaliste à la retraite, écrivain, auteur.
Oui.
Bon.
J'écris en vin. Et j'écris sur le vin aussi. Mais effectivement, avec le livre d'Hubert Gaillard de Saint-Phal, par Mons et par Chevaux, c'est mon 11e au compteur. Parce
que vous mettez,
c'est un livre où nous l'avons véritablement écrit à 4 mains. Notre technique était toute simple, surtout pendant les confinements. Nous avions le temps. Eh bien, il m'apportait ses brouillons, qui étaient parfois un charabia sélinien, mais avec une impulsion dans l'écriture pour quelqu'un qui n'était pas du métier. Il y avait vraiment de l'idée, une dynamique. Et en 1 an, nous avons réussi à clore ces 17 et même 18 chapitres avec quelques témoignages de gens, de personnalités qui ont connu Hubert Gaillard de Saint-Phal, parce que sa vie, moi j'ai voyagé, mais quand je fumais des gauloises dans les oasis, Hubert, lui, courait sur le sable à température de 50 degrés. Bon, je n'ai jamais fait de cheval. Mais vous voyez, un journaliste est capable d'expliquer ce qu'il n'a pas compris, car on a l'impression que j'ai été un grand cavalier en co-écrivant ce livre avec le chevalier de Saint-Phal.
En tout cas, le texte est haletant, plein de vie, de rythme, hein, plein d'anecdotes, d'une richesse inouïe. Et bon, je vous imagine, hein, Philippe, recevant régulièrement les textes manuscrits que vous déchiffriez, donc vous avez dû quand même pas mal vibrer à chaque lecture.
Oui, oui, oui. Le vibrato, je l'avais d'autant plus que il fallait que je mette en forme. Voilà, c'était, ça me rappelait mes années où j'étais un professionnel de l'écriture. Non, ça a été une belle partie de plaisir. D'ailleurs, à la retraite, je ne sais faire que ça, écrire et lire. Hein, et je vis dans le Haut-Bocage vendéen, précisément tout près de la Gaubretière. Et c'est ainsi que j'ai connu cet autre Hauboquin qui est Hubert Gaillard de Saint-Phal, qui vit dans le prieuré Saint-André sur la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux.
Ah,
mais vous savez, les Hauboquins et les Maréchins sont faits pour de temps à autre s'entendre. La preuve, nous sommes ici.
Hubert Gaillard de Saint-Phal, alors déjà quel nom? Quel programme votre nom?
Oui, c'est une très vieille famille française, mais je reste simple là-dessus. Nous sommes d'origine d'extraction exactement chevaleresque depuis 1230 exactement. Et j'ai toutes les traces de cette famille, toute l'histoire des deux Saint-Phalle qui se sont mariés avec les Gaillards, etc. Et donc le titre de chevalier est un titre, c'est pas un titre d'ailleurs, hein, c'est une récompense. C'est le titre, si vous voulez, ou la récompense la plus basse dans la noblesse. Après, il y a les comtes et vicomtes, etc. Donc le chevalier, c'est pas, c'était un homme de guerre, un noblesse d'épée, qui était avant écuyer, donc le page. Et s'il savait se battre, et s'il était valeureux, et s'il était un petit peu apprécié par le seigneur, parce que c'était pas forcément le roi, on lui donnait le titre de chevalier. Écuyer, c'était honorifique, donc, en fait, oui. Voilà, c'est ça.
Et donc le cheval, déjà important, c'est important.
Bien
aussi.
Sûr, écuyer, c'est cheval.
Alors vous vous livrez, alors sans détour, sans fausse pudeur, un grand baroudeur, et ce, dès votre conception, là, au Maroc, et une naissance dans les Ardennes, une vie qui ne commence pas très fort, dites-vous, à en croire votre mère, qui vous a porté 9 mois et 1 semaine, l'accouchement est interminable. Tout cela, ce sera un premier reproche, hein, dites-vous, premier d'une longue série. La relation mère-fils n'est pas des plus tendres et vous l'appelez très vite Volkoch. On a tous le souvenir de lecture de Vipère au Poing. Vous vous êtes reconnu aussi dans cette lecture?
Alors moi, je me suis reconnu, si vous voulez, j'ai reconnu ma mère. J'appelais Volkoch avant parce que j'avais ouï dire du livre. Mais quand j'ai vu le film avec Alice Aprich, j'ai dit c'est ça. C'était elle, en fait.
Terrible.
Et c'était exactement ça. Alice Aprich, c'était ma mère, qui était une très très jolie femme, mais vous savez que la méchanceté, ça rend très laid. Et elle est devenue très très laide.
Et très, effectivement, difficile,
voilà,
très dur.
Très acariate, enfin ouais. Voilà quoi.
C'est un fil conducteur.
Oui, on va la retrouver dès la fin.
Le désamour de la mère, quelque part booste Hubert, lui permet. L'amour du cheval lui sauve la vie. D'ailleurs, ça a failli être le premier titre. Le cheval m'a sauvé la vie.
C'est un sous-titre à un moment donné. Hein,
et c'est devenu un titre de chapitre.
Oui, tout à fait. J'ai démarré fort dans la vie, dites-vous. Gaucher, à une époque où évidemment l'école ne l'accepte pas. Dyslexique et doté d'un bégaiement sans doute pas anodin. Vous vous évadez d'abord dans les livres d'histoire et de géographie, dans les images, dans des promesses d'un autre monde peut-être.
Oui, j'étais pas spectateur, j'étais dans l'image, j'étais acteur. J'étais le chevalier Bayard, Ivanhoé, Lancelot du Lac, Zorro, oui. Je lisais pas en fait. Je regardais que les images et c'était un film qui tournait pour moi et je m'inventais des histoires, je construisais des cabanes, j'étais un rêveur en fait, je suis même maintenant encore un rêveur.
On l'imagine bien, puis vous avez réalisé beaucoup de rêves, hein. Et puis donc l'évasion devient réalité puisque vous allez très très vite investir le centre équestre, peut-être pas très très loin de chez vous.
Oui, alors par tradition familiale, on montait tous à cheval à la maison, c'était tradition familiale. Mon grand-père paternel, quand je le voyais de temps en temps, sa première réflexion, alors Hubert, il parlait pas de l'école, il disait, qu'est-ce que vous progressez à cheval? Il n'y avait que ça qui l'intéressait. Et puis en fait, c'est vrai que j'aimais ça, et en fait, j'étais mieux sur le dos du cheval que sur le dos, sur les bancs des écoles, hein. Et j'avais pas ma mère sur le dos.
Oui, donc, c'est ça. Voilà. En fait, ça vous a permis très vite, très jeune, d'échapper à votre quotidien, à l'école, et puis surtout chaque week-end au poids de la famille, parce que très vite, on vous embarque dans des virées équestres.
Voilà, c'est ça, parce que je suis monté à la gommette de Nantes à l'époque, et j'ai eu mes examens, alors que je ratais tout à l'école, j'ai eu mes examens du premier coup avec des bonnes notes, ce qui m'a permis de rentrer dans l'équipe de concours épique de la gommette, et c'était le week-end, et donc j'échappais à la messe, qui était interminable, aussi. J'en parle un peu aussi, et c'était un refuge pour moi, le cheval.
Et vous embarquez donc toute l'équipe, vous êtes très très jeune, l'échappée est vraiment belle, vos acolytes encadrants sont un peu plus âgés, et vous les suivez. Alors vous le racontez, dans des sorties, alors on fume, on boit, on rencontre des jeunes filles et on sent que le bon vivant chez vous est en train de naître.
Oui, je crois que, je ne sais pas d'où je tiens ça, mais oui, un petit peu, j'aime ça.
Les plaisirs de la vie, ils vont revenir très souvent dans le livre.
Disons que tout sauf l'ennui.
Oui.
Voilà, tout sauf, j'aime pas m'ennuyer. Donc...
C'est drôle, à la fin du livre, j'avais envie de vous poser la question, ça vous arrive de vous ennuyer?
Non, jamais, même dans un aéroport, je ne m'ennuie pas. Même si j'attends un train pendant 6 heures, je m'ennuie pas. J'ai pas l'impression d'attendre. J'observe les gens, je les juge quelquefois, mais intrinsèquement, je lui dis oh là là, je donne des notes aux jeunes filles qui passent. Et puis, ou j'ai un bouquin, je lis et voilà.
Et l'ennui est un luxe.
N'est-ce pas?
Et il faut savoir profiter de l'ennui. C'est souvent à partir du moment où on s'ennuie que l'on devient un peu plus créatif.
Exactement, je referme cette parenthèse. Aujourd'hui. Mais vous avez bien raison. Vous avez parlé des jeunes filles, c'était justement ma question suivante. Les jeunes filles, les jeunes femmes, progressivement, hein, sans dévoiler les diverses rencontres, vous avez un souvenir précis de chacune d'entre elles. Elles ont été nombreuses, hein, je ne peux pas dire le contraire.
Non, je ne dis pas tout. Hein.
Ça a été très important et c'est très important pour vous.
Hein. Ouais, même maintenant, il faut quand même reconnaître. Je suis un éternel amoureux, mais je ne suis jamais capable d'aimer plusieurs filles à la fois. C'est une, c'est tout. Et entre les deux, là, je suis un...
Ah bon.
Ouais, voilà, un bon vivant.
Hubert est amoureux de l'amour.
Je suis un rablaisin de l'amour, quoi, comme Gargantua, quoi.
C'est très présent dans votre livre, ça rend aussi voilà, le récit très vivant. On continue dans l'évolution de votre parcours, hein. Très vite, très jeune, ce qui a été important, c'est effectivement le monde du cheval. Vous décrivez la joie, le paradis même, écrivez-vous, lorsque vous êtes dirigé vers un apprentissage dans les métiers du cheval. On croit vous punir, mais pas du tout.
Ah non, c'était. Mais c'est ça qui est ambigu chez mes parents. C'est qu'ils croyaient vraiment me punir, mais j'étais tellement heureux, un, de fuir ce climat familial qui était odieux, avec une mère qui pouvait castrer n'importe qui, mon père qui était plutôt silencieux, c'est ma mère qui portait la culotte, faut quand même le reconnaître, et puis alors l'école, je pouvais pas supporter l'école, et je fuyais aussi quelque part le monde des adultes. Je rentrais dans le monde équestre.
Ah, beaucoup de méfiance. Hein,
même maintenant, j'ai peur des adultes. J'ai peur. J'aime bien la personne, mais j'ai peur des personnes. J'aime l'individu, mais pas les individus. Je n'irai jamais dans une manifestation, quoi que ce soit, parce que j'ai peur de la foule. J'aime pas la foule. Et d'ailleurs, mon bégaiement venait de ça.
Oui, voilà, je l'ai effectivement évoqué rapidement, mais c'était pas anodin de bégayer, effectivement.
Ah, c'était pas anodin, surtout quand vous êtes dyslexique. Alors, vous êtes alisé de l'école. Mmh. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris à me battre parce que je me bagarrais énormément. Parce que j'avais pas de mots, bien sûr, je pouvais pas m'expliquer. Donc, je m'expliquais avec les poings.
Et grosse bagarre, justement, quand vous partez en apprentissage, vous vous défendez face à une tentative de sordide bizutage.
Oui.
Vous n'êtes pas homme à vous laisser embarquer. Hein.
Oui, exact. Ils ont pas réussi et il y a eu du sang sur le trottoir, comme on dit. Hein. Ça c'est vrai, mais j'ai été viré à suite de ça pour rébellion. Ouais. On se rebelle contre. Vous vous rendez compte le monde des adultes où il va, mais où on va dans ce monde-là, quoi.
C'est vrai que vous avez rencontré des gens vraiment particuliers. Hein. Donc vous êtes viré effectivement après avoir refusé. Ben, je laisse les gens lire hein, ce bizutage atroce. Et on sent justement à partir de là et puis au fur et à mesure du récit, vous avez ce tempérament un petit peu de frondeur quand même, un fort sens de la justice voire de l'injustice.
Absolument, mais ça c'est le côté chevaleresque.
Toujours le chevalier.
Et bien sûr, ça ressort toujours, c'est intrinsèque tout ça encore. Je déteste l'injustice. Et quand on voit tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, on se dit zut, quoi, c'est pas juste. Et j'ai envie de reprendre l'arme, j'ai envie de prendre le braquemar et de taper dans le tas. Mais ça se fait plus maintenant.
Hein. On le sent quand même dans le récit. On est qu'à la fin du premier chapitre, à ce moment du récit. La suite, c'est plein de rencontres. Le récit d'une vie, un environnement. Alors, Nantais, Vendéen, des rencontres, Colette Lebret, Marcel Rosier, évidemment, on en parle dans 3 minutes.
Après le titre tout nouveau de Pascal Obispo sur Neuve.
Dis-moi, pourquoi tu pleures ? Dis-moi, qui t'a fait souffrir ? Ton cœur, moi aussi j'en suis passé par là, je connais ça, quand on ne peut plus se taire, quand on sait plus quoi faire, à qui dire qu'on a mal, quand on peut plus s'enfuir. se taire quand on sait plus quoi faire. À qui dire qu'on a mal quand on peut plus s'enfuir, qu'on sait plus comment vivre. À qui dire qu'on est seul, qu'on est seul, qu'on est seul.
On est seul, extrait de son nouvel album intitulé France. C'était Pascal Obispo sur Nove. La suite jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi aujourd'hui dans nos studios. Emmanuel, vous recevez Hubert Gaillard et Philippe Gilbert.
Oui, Hubert Gaillard de Saint-Phal qui nous raconte sa vie intense en collaboration avec Philippe Gilbert dans ce livre Par Monts et par Chevaux. Arrêtons-nous sur cet environnement vendéen dans lequel vous avez aussi baigné, dans lequel vous baignez toujours. Cette demeure familiale chargée d'histoire à Saint-Aubin-des-Ormeaux. Des vacances pleines de souvenirs.
Oui, plein de souvenirs et beaucoup de liberté. C'est le seul moment où j'avais pas la mère sur le dos, c'est très vulgaire ce que je dis, parce que mon père n'était pas présent, il était souvent absent. Mais on avait une liberté totale du petit déjeuner au déjeuner, du déjeuner au dîner. Donc on nous foutait la paix, je jouais dans les bois, j'allais jouer avec les fermiers du cru dans le fermage de mon père, parce que mon père avait des fermes, et au grand désespoir de ma mère qui disait c'est pas des gens fréquentables, ils ne sont pas de ton cru.
Oui, bah, de toute façon, tout ce que vous faisiez n'était pas bien, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive.
Ah oui, oui.
Et donc on voit cette demeure, hein, chargée d'histoire ancestrale. Et puis arrive un chapitre important, c'est celui de Chaland. Quelques semaines de travail au club hippique du Molin, qui était à l'époque dirigé, qui avait été lancé par Colette Lebray, médecin. On le rappelle, grande exploratrice, hein, son expédition, on a parlé de l'Himalaya tout à l'heure, mais justement, une expédition dans l'Himalaya soldée par une avalanche meurtrière. En 1959.
Absolument. Et un hommage va lui être rendu, car c'était le 27 novembre 1959 que le docteur Colette Lebray, natif de Chaland, alpiniste affirmé, a ramené cette expédition du désastre à bon port. Et l'association Art Expo, société d'histoire du côté Saint-Germain, la ferme du Vazet, lui rend un hommage, notamment, je crois, le 27 novembre.
Vous avez complètement raison, je crois que c'est ça.
Information à vérifier de
Je vais en reparler.
Mais ça valait le coup de le dire.
Mais effectivement, vous parlez de son obstination, de son courage. Et j'imagine pour vous, jeune adolescent, hein, quelle rencontre pour un jeune homme en devenir.
Oui, mais je ne savais pas que c'était cette femme-là, en fait. J'ai appris plus tard son histoire. Pour moi, c'était la cavalière et celle qui avait bien voulu de moi pour tenir son centre équestre en plein hiver, le centre équestre de Moulins, qui était le premier centre équestre de Chaland, qu'elle avait créé elle-même avec une association. Et il y avait des gros problèmes de personnel à cette époque-là. Il y en avait un qui s'était cassé la jambe et tout. Et mon père, je sais pas comment il a fait, il m'a fait rentrer dans ce centre équestre, mais en tant que stagiaire palefrenier. Donc, elle m'a jamais donné de cours.
Mais ça commence pas très bien, je crois, avec un cheval qui n'a pas envie du tout de rentrer.
Un cheval que je lâche,
que je lâche,
et le voilà parti du côté des sablières, à côté du truc, et j'étais dans le noir en train d'essayer de le chercher. Première bêtise.
Quelle angoisse.
Quelle angoisse. J'avais tellement peur de me faire engueuler.
Oui. Et vous, d'ailleurs, elle vous a engueulé.
Bien sûr. Mais c'était une femme qui était juste aussi, et elle me donnait les choses à faire. Des directives, toujours avec une voix un petit peu comme ça, mais ça se passait bien. Et j'ai un souvenir merveilleux, c'était pour Noël, hein. Donc j'étais tout seul, j'étais pas rentré chez mes parents, j'étais bien content aussi. Et elle est venue me chercher le jour ou la veille de Noël pour un repas chez elle, à son cabinet. Et on a bien mangé, j'étais content aussi parce que c'était chaleureux, parce que c'était pas facile de vivre pour moi. Elle m'avait offert une cravache, une paire de gants pour monter à cheval et des crottes au chocolat. Et j'ai trouvé ça merveilleux.
Un merveilleux cadeau. Alors vous parlez d'une femme juste, un homme juste aussi que vous allez rencontrer. Et ça a été vraiment essentiel. Le chapitre 4, le titre Rosier, mon idole. Vous parlez de Marcel Rosier, grand cavalier, médaillé olympique, futur entraîneur à l'époque de l'équipe de France. Et c'est dans un restaurant que tout commence. Mais c'est presque du hasard ou de la destinée, je ne sais pas. En tout cas, la rencontre de Marcel Rosier a changé énormément de choses pour vous.
Oui, absolument. Parce que là, je ne faisais pas que faire le fumier et balayer. Ma principale activité, c'était monter à cheval. Et je montais des chevaux prestigieux. Et j'avais dans mes écuries des cavaliers et des propriétaires prestigieux. J'avais le prince de Galibzine, notamment. Dari Poudboul, cravache d'or féminine. J'avais Chanvert. Et je rencontrais tous les jours Jeannot Lefebvre, Pessoa, Hubert Parot, qui était le beau-frère de... Je voyais tous les grands cavaliers. Et vous savez, c'est en regardant qu'on apprend. Et en fait, j'ai beaucoup appris à monter à cheval, j'ai eu des super maîtres, mais en regardant, d'ailleurs Marcel disait toujours, regarde comment je fais. C'est pas très pédagogique, mais à force de regarder, on voit beaucoup
c'est
de choses.
C'est très pédagogique finalement.
Voilà, oui.
Il est 13h, je suis affolée parce que j'ai plein de questions, parce que la suite, c'est quand même beaucoup de voyages. Vous allez rentrer chez les paras, l'équitation toujours en leitmotiv, vous partez en Afrique, vous partez en Australie, en Afrique du Sud, vous êtes bushman, cow-boy. Hein. Il y a plein de choses qui se passent, vous allez courir des marathons, des courses incroyables, hors normes, hein, Sahara, Himalaya, Kazakhstan, le dépassement de soi en ligne de conduite. Je passe tous ces chapitres, et bien tant mieux, parce que comme ça, les gens vont peut-être vouloir le lire, ce livre.
Absolument.
Moi, je le conseille absolument.
Nous en avons déposé quelques-uns chez Nicole Biteau à la Maison de la Presse à Chalands.
Oui.
Et d'ailleurs, nous allons maintenant au Loup 13 déjeuner à Chalands, parce que le Loup 13 faisait partie des lieux où venait Hubert Gaillard quand il était de Saint-Falck, quand il était ce jeune apprenti chez le docteur Colette Lebray,
oui,
dont la destinée a été à la fois fabuleuse et dramatique, puisqu'elle est morte, vous le savez, assassinée en 1984.
En plus. Voilà, j'espère qu'on a donné envie de lire. Moi, je vous conseille vraiment vivement cette aventure. On chevauche dans une vie passionnante. On n'a pas envie de rester comme ça, dans son petit confort. On a envie, comme vous, de voyager, de partir, peut-être de faire du cheval aussi. C'est une vie à 1000 à l'heure. J'ai même oublié, vous avez fait partie de la compagnie Jobitume. Ouais, c'est incroyable, toutes ces histoires. Merci beaucoup, hein, je suis navrée.
02 51 65 60 70, c'est le numéro de téléphone que je vous conseille pour joindre Hubert Gaillard de Saint-Fal pour avoir le livre, car il est distribué de manière un peu étonnante.
Mais c'est dommage.
Hubert en a vendu beaucoup au cul de la voiture.
Oui.
Pour vous dire, 02 51 65 60 70. Et si vous tombez sur le répondeur, n'hésitez pas à laisser un message. Hubert vous rappellera.
Et on a donc ce numéro enregistré en podcast dans quelques minutes si vous l'avez raté. Par Monts et par Chevaux, Hubert Gaillard de Saint-Fal, et vous l'avez dit, à la Maison de la Presse de Chalon, vous avez quelques éditions. C'est absolument vital de le lire aujourd'hui.
Aux éditions chez Maupassant. Merci à Joël Bonne Maison au passage.
Merci à vous, messieurs.
Merci, Hubert. Merci, Philippe. Merci. À bientôt.
Merci de votre accueil, c'est gentil.
Demain, à nouveau un livre.
Ah, ouais,
un très très beau livre aussi, avec une psychologue qui s'appelle Adeline Vaillant, qui publie Le chien qui soignait les enfants, chronique d'une cynothérapeute. Ah. Voilà comment des chiens ont été utilisés par Adeline auprès d'enfants autistes, et ça changer un peu aussi le cours de la thérapie.
Très bien, demain donc à ne pas manquer, évidemment, comme tous les jours sur Nova à 12h35.
Avec Stéphanie Michneau.
De retour.
Aussi.
Voilà, ce sont les retrouvailles après
Exactement.
Philippe, Stéphanie.
Voilà.
Très bien. À bientôt, messieurs.
Merci.
Au revoir.
L'émission en podcast 9fm.fr. Bruce Springsteen dans 2 minutes, juste après les infos cœur de pirate. Tout ça, c'est dans quelques instants. Donc sur 9, à tout à l'heure, 16h évidemment, pour la bonne nouvelle.